Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Petit Écotier, le podcast sur la Corée du Sud. Je m'appelle David et je réside en Corée du Sud depuis plus de 12 ans. Tous les week-ends, je vous propose un épisode sur les tendances en Corée, le tourisme, les faits de société, le monde culturel ou l'histoire. Si la Corée vous intéresse pour la visiter ou bien pour y vivre, ou tout simplement parce que vous êtes curieux, alors ce podcast est fait pour vous. Ce podcast, il se déguste comme un club sandwich dans le TGV ou un samgakimbap dans un GS25, comme on dit ici. On ne peut pas s'arrêter tellement c'est bon. La guerre de Corée, 1950-1953. De temps à autre, un mystère entoure la santé de Kim Jong-un. Certaines dépêches le décrivant même à l'optique de la mort. Si cela était le cas, ou s'il se trouvait dans l'incapacité de diriger son pays, pour raison de santé ou par des luttes de pouvoirs internes au régime du Nord, de lourdes et inquiétantes incertitudes pèseraient alors sur l'avenir du Nord. En conséquence, la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région tout entière seraient menacées. Cela nous donne l'occasion de revenir sur les événements du mois de juin 1950, conduisirent à la guerre de Corée et transformèrent radicalement ces deux pays et le monde, engendrant la situation géopolitique actuelle. Quelles sont les causes de la guerre? On ne peut comprendre cette guerre que si l'on remonte avant même le début du XXe siècle. Il est primordial de savoir que la Corée a été un enjeu économique et stratégique entre la Russie, la Chine et le Japon, rejoints au tout dernier moment par les États-Unis. Ces luttes d'influence ont progressivement créé les conditions propices à la partition de la péninsule coréenne. En 1876, dans un acte provocateur, le Japon envoie un bâtiment de guerre patrouiller près des côtes de Corée et s'attire ainsi le feu de batteries côtières. Pour éviter des représailles militaires, la Corée signe alors un traité avec le Japon visant à ouvrir le commerce entre les deux pays. Ce traité est inégal, en faveur de l'Empire nippon, forçant l'ouverture de ports coréens à sa marine marchande et lui cédant un quasi-monopole commercial. Les Japonais ont également le droit d'acheter des terres dans la péninsule et bénéficient de droits extraterritoriaux. Ces accords étant récriés par une large partie de la population coréenne, des rébellions se produisent, notamment en 1882, lors desquelles des représentants et citoyens japonais sont tués. En 1884, un coup d'État est fomenté par des Coréens, avec l'aide du Japon, visant à s'émanciper de la tutelle de la Chine. Ce dernier pays, répondant à l'appel d'une frange de la population coréenne, intervient militairement. Durant ces événements, des ressortissants japonais sont de nouveau tués par la foule coréenne. Pour cela, la Corée devra payer des réparations. 10 ans plus tard, la Corée demande et obtient l'aide militaire de la Chine pour mater une révolution paysanne protestant contre des impôts élevés et une corruption rampante et menaçant le pouvoir central. Le Japon dénonce cette intervention militaire qui enfreint les accords de Tientsin signé en 1885, selon lesquels aucun de ces deux pays ne peut envoyer de troupes en Corée, et certainement pas sans en référer à l'autre. C'est alors le début de la guerre sino-japonaise de 1894-1895. Le Japon impérialiste, possédant alors une armée moderne et bien équipée, remporte ce conflit. Parmi les causes de ressentiment de la Corée envers le Japon, on peut également citer l'assassinat par des agents nippons de la reine Min, aussi appelée l'impératrice Myeongseung, en 1895. Parallèlement, la Russie, également très intéressée par l'Asie du Nord-Est, construit le Transsibérien depuis l'ouest du pays vers Vladivostok, à 700 km au nord-est de Séoul, juste au-delà de la frontière nord de la Corée, port principal donnant accès à l'océan Pacifique. Cet ouvrage ferroviaire, qui traverse la Mandchourie, territoire loué par la Chine et jouxtant la Corée, est achevé en 1903. La Russie et le Japon rivaux convoitent aussi directement la Corée pour ses faibles pouvoirs politiques, économiques et militaires, ainsi que ses larges ressources naturelles au nord, et pour la Russie particulièrement, ses ports en eau chaude. Lorsque la Russie amasse des troupes en Mandchourie pour protéger son Transsibérien, le Japon considère cet acte comme une menace sur ses intérêts. La guerre russo-japonaise de 1904-1905 s'achève par la défaite de la Russie. Quant à la Corée, elle devient un protectorat, puis une colonie japonaise. L'occupation très brutale engendrera une défiance de nombreux Coréens envers les Japonais qui perdure jusqu'à nos jours. L'époque est également marquée par une forte industrialisation, une croissance économique notable et un développement de la culture de masse par le biais de la radio et du cinéma, progrès qui profitent principalement à l'occupant. Les hommes du pays occupé sont soumis aux travaux forcés ou envoyés au front. Nombre de femmes sont victimes d'esclavage sexuel. Dans son ouvrage Korea's Place in the Sun, a Modern History, l'historien de la Corée Bruce Cummings estime le nombre de ces femmes entre 100 000 et 200 000. Toute leur vie, ces dernières ont attendu de la part du Japon un travail de repentir et de mémoire à la mesure des souffrances endurées. Tandis que les dernières victimes, 25 en 2018, selon l'agence Reuters du 23 novembre de cette année-là, s'éteignent, le traumatisme reste vif et impardonnable. L'occupant japonais ne se retire de Corée qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après sa capitulation du 10 août 1945. C'est alors au tour des troupes soviétiques d'occuper la Corée par le nord jusqu'au 38e parallèle. Ce moment, la Corée ne possède pas de prétendants légitimes au pouvoir. Ceux qui aspirent à ce rôle se divisent entre des Coréens ayant combattu avec les communistes chinois lors de leur révolution et guerre civile, et épousant donc leur modèle, et ceux attirés par le modernisme économique occidental. Réaction contre le capitalisme d'alors dans leur pays, où les dirigeants sont japonais et les ouvriers coréens, une large partie de la population a donc plutôt des sympathies envers les modèles soviétiques et chinois, se rappelant également que ces deux pays ont combattu l'empire nippon quelques décennies auparavant. Deux leaders se démarquent bientôt. Parmi les pro-communistes, Kim Il-sung, qui s'est battu aux côtés des communistes chinois pendant la guerre civile, et un certain Ri Syngman, exilé aux États-Unis et probablement soutenu par l'Office of Strategic Services, ancêtre de la CIA. Ce dernier défend des idées pro-occidentales et capitalistes, sans être un démocrate pour autant. Les USA proposent une division temporaire du pays le long du 38e parallèle. Cette ligne de démarcation arbitraire, sans aucune justification historique, économique ou culturelle, marque la première division de la Corée de son histoire moderne. L'économie de marché proposée par les Américains engendre spéculations et famines. Les Nations Unies décident alors d'organiser des élections sur l'ensemble de la péninsule. Le 10 mai 1948, Ri Syngman remporte les scrutins au sud de la ligne de démarcation. D'après la fondation Korean War Legacy, beaucoup de supporters de Ri, y compris des membres de la police, avaient auparavant patrouillé villes et villages en menaçant ses opposants de violence. 2 semaines plus tard, les communistes sortent victorieux des élections au nord. Cette même année, dans la partie sud de la péninsule, des sympathisants communistes s'insurgent contre le projet d'État souverain proposé par les Nations Unies. L'armée du Nord et les troupes du Sud, chargées de protéger la ligne de démarcation, se joignent au combat. Pourtant, en août 1948, l'administration du Sud déclare la République de Corée, puis Kim Il-sung institue la République démocratique de Corée. Ri Syngman, déterminé à réunifier la Corée sous son égide, par la force, ne cesse de clamer son intention haut et fort. Le Congrès américain s'inquiète de cette position belliqueuse et ne lui accorde qu'une minuscule aide militaire, consistant en un armement léger très insuffisant pour mener une guerre de conquête et qui s'avérera également inadéquate pour repousser une invasion. En 1949, l'aide militaire est même rejetée par le Congrès pour les mêmes raisons. Le 25 juin 1950, le Nord envahit le Sud. Il est équipé de chars et d'artillerie lourde russe moderne et semble s'être préparé à ce conflit avec une armée dont beaucoup sont des vétérans de la guerre civile chinoise, reprenant le modèle soviétique. Le Sud, quant à lui, est mal organisé, sous-équipé, peu entraîné et compte deux fois moins de soldats. Depuis la revue Expat, Magazine of Foreign Affairs du printemps 2015, il semble que Staline accorde son assentiment à cette guerre car il espère que cela rapprochera la Chine populaire de l'URSS et surtout qu'elle la maintiendra éloignée diplomatiquement des États-Unis. Il voit également la présence américaine en Corée comme une menace potentielle et ne serait pas mécontent d'une Corée unifiée communiste en réponse à un Japon sous occupation américaine. Il est même sans doute conforté par les propos du secrétaire d'État américain, Dean Acheson, qui a déclaré le 12 janvier 1950 que son pays ne garantissait pas la défense militaire de la Corée du Sud. L'offensive par le Nord. L'armée du Nord attaque donc le 25 juin 1950 à l'aube selon trois axes principaux, à l'est et à l'ouest de la péninsule, et enfonce les pauvres défenses du Sud. En seulement 3 jours, elle atteint Séoul. Mais les forces du Sud se réorganisent défensivement sur la rive sud du fleuve Han et à l'est se replient en bon ordre, tandis que le gouvernement résiste tant bien que mal. Pour des raisons de politique intérieure, le président américain Harry Truman décide de passer par les Nations Unies pour autoriser une réponse militaire. Le 27 juin 1950, pour la première fois de son histoire, l'organisation demande à ses membres de participer à un conflit armé en défense du Sud, en votant la résolution 83 de son Conseil de sécurité. 16 pays, dont la France, répondent à cet appel en envoyant des contingents souvent très modestes et 41 fournissent de l'équipement. Au total et sur toute la durée du conflit, 5,7 millions de combattants américains et 40 000 d'autres pays, dont la moitié sont britanniques, auront répondu à l'appel de l'ONU. La France, elle, empêtrée dans ses affaires en Indochine, envoie un bataillon composé de seulement 3 720 volontaires. Malgré ce nombre modeste, nos soldats font honneur à notre pays, se battent courageusement, souvent contre des troupes bien supérieures en nombre, et suscitent l'admiration de tous en de très nombreuses occasions. Ils arrêtent une offensive chinoise dans une lutte au corps à corps en utilisant leurs baïonnettes lors de la bataille de Wanzhou. Le commandement américain remarque ce fait d'armes et tente même d'en inculquer les principes à ses troupes, car les soldats chinois semblent retourner les attaques menées avec cette arme rudimentaire plus que les balles. En 1952 et 1953, les Français repoussent des offensives chinoises visant à reprendre Séoul. Au total, d'après le magazine Le Point du 20 décembre 2010, 267 soldats français tomberont au combat. Notons aussi que le chef de poste français à l'ambassade, fait prisonnier de guerre lors de ce conflit, restera enfermé au nord pendant 3 ans. Le 30 juin, Truman autorise le transfert de troupes américaines du Japon vers la Corée, sous le commandement du très célèbre général MacArthur. Pendant ce temps, les troupes du Nord continuent leur conquête et occupent toute la Corée du Sud. Après des semaines de combats acharnés, seule une ville résiste, Pusan, où les troupes du Sud et les Américains, ainsi qu'un contingent principalement britannique, défendent les derniers espoirs dans une lutte sanglante. Cependant, les troupes américaines sont des garnisons d'occupation et non de combat. Elles ne se sont pas battues depuis des années et leur morale est au plus bas. Les quelques vétérans de la Seconde Guerre mondiale sont plus âgés, lents, peu entraînés, mal préparés à une guerre réelle et peu motivés. Certains iront jusqu'à abandonner leurs armes et fuir le champ de bataille. Soutenir Pusan, où des tranchées défensives sont mises en place, les Américains imposent un blocus des côtes et mènent des campagnes de bombardements aériens massifs dès que la météo le permet. Le temps ainsi gagné leur permet d'entraîner leurs troupes au combat, de briser la chaîne logistique du Nord et de recevoir des quantités impressionnantes de matériel et de renforts. En juin 1950, MacArthur est nommé commandant des forces de l'ONU et en profite pour réclamer davantage de moyens. Ce moment du conflit, l'offensive du Nord semble bel et bien arrêtée, mais la quasi-totalité du pays est sous occupation. Il faut un plan pour sortir de l'impasse. Le 15 septembre, en dépit des prévisions météorologiques annonçant un typhon, MacArthur parvient à mettre en œuvre un débarquement dans le port d'Incheon. Il atteint Séoul le 25 septembre et prend à revers les troupes nord-coréennes qui se retrouvent prises en tenaille car les forces de l'ONU, qui se sont progressivement dégagées de Pusan, les repoussent de leur côté. Le 29, le gouvernement de Ri Syngman est rétabli en grande pompe à Séoul. L'armée du Nord et la guerre en accordéon. L'armée du Nord est décimée, mais une partie de ses troupes, toujours disciplinées, opère un repli tactique vers le nord, tandis que 10 000 de ses soldats demeurent au sud pour y conduire des actions de guérilla. Ce mouvement de troupes est accompagné des actions cruelles envers la population civile. Une partie est capturée pour servir de travailleurs forcés et d'otages, tandis que des milliers d'autres sont massacrés. De l'autre côté, les Américains bombardent massivement, provoquant d'innombrables dommages collatéraux au sein de la population civile. Les troupes du Sud, pour leur part, n'hésitent pas à exécuter les suspects de sympathie communiste, qu'elles soient réelles ou supposées. En adoptant la résolution 376, le 7 octobre, l'ONU change ses objectifs de guerre et décide que toute la péninsule doit être libérée des forces du Nord. Les troupes du Sud ont déjà traversé le 38e parallèle le 1er du mois, suivi par les forces américaines le 7. La capitale du Nord, Pyongyang, tombe le 19. Accompagné de ce qui reste de son armée, le gouvernement se replie dans les montagnes et demande l'aide militaire de la Chine. Inquiète de cette présence américaine si près de sa frontière, cette dernière n'accepte cependant qu'après s'être assurée du soutien russe, en particulier aérien. D'après Dennis Weinstock, dans son ouvrage Truman, MacArthur and the Korean War, page 24, sachant la 7e flotte américaine occupée à protéger Taïwan, Formose à l'époque, la République populaire de Chine en profite pour transférer ses garnisons, 225 000 hommes d'élite, désormais inutiles sur ce front mais prêts à agir, vers son territoire frontalier de la Corée à la fin juillet. Le 25 octobre, les forces chinoises affrontent et défont les troupes américaines et sud-coréennes, provoquant surprise et effroi. Ces dernières se replient de quelques kilomètres et renforcent leur position en prévision de l'hiver très rigoureux dans ces régions. Les forces aériennes de l'ONU se concentrent alors sur la destruction de cibles stratégiques et visent notamment à détruire les abris des troupes ennemies pendant l'hiver. D'après un article du New York Times du 26 février 1992 par Seth Faison Jr., les Chinois décident de faire sortir les troupes de l'ONU de leur position défensive en faisant semblant de se replier. L'objectif est que les armées soutenant le Sud se découvrent et, en effet, celles-ci opèrent un mouvement vers le Nord. Le 24 novembre, elle rencontre les troupes chinoises et nord-coréennes qui le repoussent alors vers le sud pendant 3 semaines. À l'est, près du réservoir de Chosin, la première division américaine de Marines affronte deux armées régulières chinoises. Cette rencontre sera l'une des batailles les plus emblématiques du conflit. Dans des conditions climatiques hivernales terribles, la division de la Marine réussit à détruire 7 divisions chinoises avant d'achever son repli le 11 décembre. Après des désagréments entre généraux américains, la 6e armée se replie vers Séoul le 7 décembre, abandonnant le territoire aux forces du Nord. Mao Zedong décide alors que la libération du Nord ne suffit pas. Ce qu'il veut, c'est une unification de toute la péninsule sous un régime communiste. Ses troupes réussissent à conquérir Séoul le 5 janvier 1951. Après d'âpres combats, les forces alliées du Sud repoussent les envahisseurs et franchissent de nouveau le 38e parallèle. C'est à ce moment, au printemps 1951, que MacArthur, parfois accusé de mégalomanie, il nourrit des ambitions présidentielles et semble considérer que ce conflit peut servir ses intérêts, est relevé de son poste pour insubordination. Profitant de ce flottement dans le commandement des troupes américaines, la Chine relance des offensives massives, enfonçant de nouveau les défenses du Sud. Il faudra des semaines de bataille pour que le Sud regagne le terrain perdu. Le 30 mai, il reprend enfin ses positions défensives au nord du 38e parallèle. Sur le territoire ennemi, les combats se limitent alors à de courtes offensives sans conquête de terrain conséquente. C'est la fin de ce que l'on a qualifié de guerre en accordéon. L'armistice. À ce moment, le soutien pour cette guerre faiblit chez les Américains. Ils ont subi des pertes humaines terribles et des sommes astronomiques ont été engouffrées dans la défense d'un pays qui n'a pas de réelle importance stratégique pour leur nation. À Washington, le pouvoir politique s'oppose désormais à tenter la reconquête du Nord. Les lignes de front se figent. Le Nord est incapable de percer significativement les défenses du Sud et les forces alliées sont empêchées de pousser vers le Nord. Truman recherche alors un moyen de négocier la paix. En juin 1951, après s'être assuré de la non-opposition des Soviétiques à des pourparlers, les Américains proposent aux dirigeants nord-coréens et chinois des discussions pouvant amener à une cessation des hostilités. Celles-ci se tiennent en juillet de la même année à Kaesong, aujourd'hui en Corée du Nord, juste au-delà de la frontière. Le Nord propose de cesser les combats pendant les pourparlers, essuyant un refus des Américains croyant pouvoir bénéficier de leur avantage militaire pour maintenir la pression et arracher des accords favorables. En pleine période de guerre froide, aucune des deux parties ne veut projeter une image de faiblesse. Les forces américaines continuent de bombarder cible après cible dans le nord, mais les Chinois reconstruisent aussitôt. De plus, la Corée du Nord n'est pas un pays riche en installations industrielles ou militaires. À Kaesong, les discussions s'éternisent sans progrès notable, frustrant les Américains qui décident de bombarder la capitale du Nord pendant l'été. Ils espèrent que la pression ainsi opérée sur les parties adverses fera avancer les négociations sans grand succès militaire ou diplomatique. En octobre, les discussions reprennent à Panmunjom. Cette fois, les deux parties se montrent ouvertes à des concessions, mais elles butent sur le sort des prisonniers de guerre. La position américaine est de laisser à ses prisonniers le choix de rentrer au nord ou de rester au sud, tandis que le nord réclame leur totalité, tout en tentant des lavages de cerveau chez ceux qu'il détient. Le sud ayant capturé 10 fois plus de soldats que le nord, la situation est particulièrement délicate pour ces derniers. À Panmunjom se trouve le pont de non-retour, par où les échanges de prisonniers ont finalement été opérés. Si les prisonniers détenus au sud étaient supposés avoir le choix d'y rester ou de retourner au nord, une fois le pont franchi, le retour s'avère des plus difficiles. Les négociations s'enlisent de nouveau. En effet, les deux parties nourrissent des arrière-pensées. Les Américains espèrent augmenter leur budget militaire grâce à cette guerre et personne ne veut donner l'impression de céder aux exigences de l'ennemi. En 1952, Eisenhower est élu sur la promesse de mettre fin au conflit et prend ses fonctions en janvier 1953. En juin, un accord est enfin obtenu sur l'épineuse question des prisonniers de guerre. Ils peuvent choisir leur pays de destination. Ceux qui refusent de retourner au nord passeront 3 mois dans un quartier neutre et devront confirmer au terme de cette période leur désir de rentrer au sud. Enfin, et malgré les rodomontades de Risingman promettant d'envahir le nord, un armistice est signé le 27 juillet 1953 entre la Chine, la Corée du Nord et les Nations Unies. Seule la Corée du Sud refuse de parapher ce document. Et de ce fait, techniquement, les deux Corées sont donc toujours en guerre. Le conflit aura coûté 4 millions de vies, d'après The Korean War, A History, par Bruce Cumings. Conséquences de la guerre. Entre autres, l'armistice stipule la création d'une bande démilitarisée de 4 km de large le long du 38e parallèle. Voilà peut-être le plus bel exemple de double langage diplomatique de l'histoire. En réalité, cette zone est la plus militarisée au monde. Des centaines de milliers de soldats s'y font face et quelques tirs y ont même été échangés le 3 mai dernier. Le Nord concède au Sud un tracé de ligne de démarcation qui ne suit pas exactement le 38e parallèle, mais cède une partie de ses terres. En contrepartie, le Sud accepte que Kaesong passe officiellement sous contrôle du Nord, perdant ainsi une capitale coréenne de l'ancien temps, ainsi que la symbolique qui l'accompagne. Conséquence évidente De ce conflit, deux Corées ruinées et détruites, des pertes humaines effroyables et le déchirement de familles écartelées entre les deux pays. Cependant, cette confrontation a sans doute eu un effet dissuasif pour d'autres guerres futures, où l'une des puissances majeures aurait pu intervenir directement et massivement dans ce que l'autre considérait comme sa chasse gardée. Par exemple, les événements du canal de Suez, de Tchécoslovaquie ou l'invasion soviétique de l'Afghanistan, en plus de la guerre du Vietnam, n'ont malgré tout pas dégénéré en conflit ouvert. Peut-être le seul pays à bénéficier de cette guerre a été le Japon, en tant que premier pourvoyeur de matériel et biens nécessaires au conflit. Certains comparent même la manne financière reçue par eux à l'équivalent du plan Marshall, ce qui a grandement aidé ce pays dans son essor économique ahurissant lors de sa reconstruction. Pendant des décennies, les deux Corées continueront d'être des dictatures, en quelque sorte les faces opposées de la même pièce. Le New York Times du 6 février 2018 montre que les deux pays ont eu un PNB similaire jusqu'au début des années 60. Ce même article explique qu'à la suite du coup d'État et de la prise de pouvoir par Park Chung-hee au sud, le pays connaît une impressionnante croissance économique jusqu'à devenir 17 fois supérieure à celle du Nord. Après une longue période de dictature militaire et de protestation en faveur d'un avenir démocratique, régulièrement réprimé dans le sang, ce n'est qu'en 1992 que la Corée du Sud se démocratise réellement avec l'élection de Kim Yong-sam, premier civil à occuper la fonction présidentielle depuis 1960. Nous espérons qu'à travers, au travers de cet article, l'histoire troublée de notre pays hôte qu'est la Corée sera mieux connue et que nous pourrons ainsi le comprendre et le respecter davantage pour tout ce qu'il a subi et dont il s'est relevé. Le miracle coréen ne peut être pleinement compris que dans sa perspective historique. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du Petit Écotier, le podcast sur la Corée du Sud. Merci aussi à la plateforme Pixabay.com et à Music Unlimited pour le crédit musique. Merci enfin à mes amis auteurs et autrices et à l'association Séoul Accueil que vous pouvez retrouver sur séoulaccueil.com. Sur ce site, vous pourrez consulter la version numérique du Petit Écotier. Si vous avez un sujet qui vous intéresse plus particulièrement, si vous voulez participer à ce podcast, ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente semaine, merci encore et au week-end prochain!